Où faut-il chercher la clé de cet assassinat? Affaire de gros sous, racket, définitif règlement de compte pas très clair, affaire personnelle ou vengeance? Gérard Lebovici a-t-il été victime de gens avec qui il était en compte? En tout cas, il a été littéralement exécuté de 4 balles dans la nuque, curieusement positionné en une sorte de carré mortel.
Bonsoir, le cinéma le surnommait le roi Lebo. Gérard Lebovici, inconnu du grand public, même si en ces années 80, il était l'homme qui régnait sur le film français, producteur puissant, respecté, agent des plus grandes stars, de Jean-Paul Belmondo à Catherine Deneuve. Un personnage qui restait dans la coulisse, dans la pénombre, et c'est dans l'obscurité d'un parking parisien qu'il a été abattu à la fin de l'hiver 1984. Une exécution qui a alors toutes les allures d'un contrat portant la signature du milieu. 37 ans après, cette mort violente demeure une énigme. On ne sait toujours pas qui a abrégé la vie de Gérard Lebovici. Les pistes se sont pourtant multipliées, celles de la pègre, d'un différend financier, d'une vengeance amoureuse. Même l'ombre de Jacques Mesrine est apparue. C'est cette histoire, la mort ténébreuse du roi des producteurs Gérard Lebovici, que nous allons raconter ce soir. Avec nos invités, nous allons essayer de comprendre pourquoi un voile de silence s'est si rapidement abattu sur cette enquête. Une mort dont la clé se cache forcément dans la vie secrète d'un homme qui avait rendez-vous avec son tueur.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'assassinat de Gérard Lebovici en 1984 à Paris. Le producteur français est un homme convoité et sollicité. Un seul coup de fil va pourtant suffire à le faire disparaître. Ce lundi 5 mars 1984 s'annonce comme une nouvelle longue journée pour Gérard Lebovici. Vers 8h30, il a rejoint son bureau au numéro 11 bis de la rue Kepler, non loin de l'Arc de Triomphe. C'est le siège de la société AAA, acteur, auteur, associé, société qui s'occupe de production et de distribution de films. Une entité de la nébuleuse Lebovici, avec l'agence Armédia qui gère les carrières de dizaines d'actrices et acteurs, ou encore les éditions Champs Libres. Lebovici enchaîne les rendez-vous. À 13h, il déjeune avec Serge Siritsky, exploitant de salle. Comme à son habitude, Lebovici est peu bavard, presque taciturne. Mais c'est ainsi que se présente presque toujours le producteur. Après-midi de travail jusqu'à 17h30, où un homme qui refuse de donner son nom appelle directement son secrétariat. Régine Cordelier, l'assistante de Lebovici, ne donne pas suite. L'inconnu insiste, rappelle 3 fois et finit par dire « Dites simplement que c'est de la part de Sabrina ». La seule évocation de ce prénom fait réagir Lebovici. Il ne connaît qu'une seule Sabrina, c'est Sabrina Mesrine, qu'il a pris sous son aile depuis la mort de son père 5 ans auparavant. Il prend alors l'interlocuteur en ligne. On l'entend dire « Si cela peut vous soulager, je suis prêt à continuer cette conversation avec vous ». Le producteur quitte son bureau, fait annuler son prochain rendez-vous, prévient son épouse Floriana qu'il sera en retard pour le dîner. Alors qu'il n'aime pas conduire, il donne congé à son chauffeur, prend lui-même le volant de la Renault 30 TX de fonction et disparaît dans la circulation. Les heures passent et aucun signe de Gérard Lebovici. Son épouse Floriana et ses invités au dîner du soir, parmi lesquels l'actrice Marie Dubois, sont surpris puis inquiets. Floriana Lebovici finit par appeler le commissariat, les hôpitaux, en vain. 2 jours vont ainsi s'écouler sans aucune nouvelle. Le mercredi 7 mars, peu avant 4h du matin, le gardien du parking et Bowling Foch, avenue Foch, dans le 16e arrondissement, est intrigué par une Renault 30 TX mal stationnée. À bord, un homme semble dormir sur le volant, mais son imperméable clair est taché de sang. La police va compter 4 balles de 22 longs rifles tirés dans la nuque. 3 douilles sont retrouvées sur la moquette du véhicule, une 4e bien droite sur la plage arrière. Dans le grand banditisme, c'est la signature d'un contrat. Un témoin se souviendra avoir vu entrer dans le parking le lundi la voiture avec 3 hommes à bord. La victime a de l'argent sur elle, seuls ses papiers ont été dérobés. Il s'agit bien de Gérard Lebovici, 51 ans. Gérard Lebovici, qui ressemble donc un petit peu à Delon dans Le Samouraï, est loin d'être monsieur tout le monde. C'est une enquête sensible qui démarre. Le ou les tueurs ont agi de façon très professionnelle. Ils n'ont laissé aucune trace. La police va aller à la pêche aux témoignages. Enquête qui s'annonce longue. Gérard Lebovici a été foudroyé de 4 balles dans la nuque. Un tir rapide, le tueur était assis dans sa voiture juste derrière lui. C'est la brigade criminelle qui est chargée des investigations. Son patron, Jean Dufour, supervise la marche de cette enquête, pas comme les autres. Tout se déroule dans un décor pour le moins inhabituel. Un mélange d'intellectuels, de financiers, de grands bourgeois et de visages connus du cinéma. Rien que du beau monde. Parking Foch, le lieu de l'assassinat. Les tueurs n'ont pas laissé d'empreinte. Personne n'a vu leur visage. Sur ce coup, force est de constater que les informateurs habituels sont aux abonnés absents. Rien ne remonte d'un éventuel contrat. Les affaires du patron d'Armédia, et notamment ses carnets, agendas, griffonnés d'une écriture illisible, ne livrent pas d'éléments sérieux. Lebovici avait, semble-t-il, des concurrents, mais pas d'ennemis qui souhaitaient sa mort. Il n'avait jamais évoqué de quelconque menace. 10 ans auparavant, Armédia avait certes fait l'objet d'une tentative de braquage menée par un certain Jean-Charles Villoquet, qui allait devenir l'un des comparses de Jacques Mesrine, mais ce braquage bancal avait tourné court. Ce n'est pas à cause de Villoquet et son braquage foireux que le nom de Mesrine, abattu par la police 5 ans auparavant, figure tout de suite dans l'enquête de la crime, mais à cause du coup de fil qui a fait sortir Lebovici de son bureau, de cet inconnu qui lui a donné rendez-vous en prétextant appeler de la part de Sabrina Mesrine, la fille du truand. Depuis longtemps, Lebovici avait une réelle fascination pour Mesrine. Il avait racheté les droits de son autobiographie, L'instinct de mort, et envisageait de monter un film sur la vie de l'ennemi public numéro 1. Il avait pour cela démarché Jean-Paul Belmondo pour tenir le rôle du gangster, mais celui-ci avait décliné. Il avait aussi demandé au chanteur Renaud d'écrire une chanson sur Mesrine. Renaud n'avait pas donné suite. Sabrina Mesrine, qui a alors 23 ans et qui travaille aux éditions Champ Libre, ignore pourquoi son prénom a été prononcé au téléphone, sans doute pour attirer le producteur dans un piège. Cette audition ne donne rien, tout comme celle qui s'enchaîne au 36 quai des Orfèvres, pas moins de 290 interrogatoires, des collaborateurs d'Armédia, des amis, des gens de cinéma. Beaucoup témoignent d'un homme qui voulait toujours voir l'envers du décor, attiré par les truands, les voyous, la face sombre de l'humanité. D'autres pistes vont se dessiner, toutes pourraient d'une manière ou d'une autre expliquer la mort du producteur, sauf que toutes souffrent d'une cruelle absence d'indices. Le juge d'instruction Alain Verlaine voit le dossier de la mort de Gérard Lebovici s'épaissir mois après mois, mais sans que celui-ci ne délivre une quelconque amorce de vérité. En fait, les investigations font du surplace. La veuve du producteur, Floriana Lebovici, se désespère de n'avoir aucune réponse à ses questions. 6 ans après le crime, elle demande au grand ami de la famille, l'avocat Georges Kiegemann, nommé par François Mitterrand délégué auprès du ministre de la Justice, de faire avancer le dossier. Georges Kiegemann accepte de rendre ce service et de peser de tout son poids dans cette affaire. Il ne pourra que constater que les pistes sont certes nombreuses, mais toutes figées. L'une d'elles s'intéresse à la vie amoureuse de la victime. Gérard Lebovici avait beaucoup de succès avec les femmes, et personne n'ignorait qu'il avait des maîtresses. Curieusement, la dernière en date a été entendue seulement 1 an après l'assassinat. L'une d'elles, Véronique III, un cobra tatoué au poignet, ancienne hôtesse du Brummels, un bar près des Champs-Élysées, avait été retrouvée morte au Yémen en 1977. Son père aurait tenu Lebovici responsable de cette mort. Mais là aussi, l'enquête ne donne rien. Parmi les autres pistes figure un différend commercial qu'aurait eu Gérard Lebovici avec le plus grand producteur de cassettes vidéo du moment, René Château. En jeu, le marché des masters, des bobines qui permettent la production des fameuses cassettes. Marché fructueux qui rapporte des millions et des millions de francs, mais même si un litige opposait les deux hommes, rien ne conduit à un possible règlement de compte, piste classée. Une autre va faire l'objet de beaucoup plus d'attention de la part des enquêteurs, à savoir les liens que Lebovici entretenait avec l'ultra-gauche et la mouvance révolutionnaire, notamment avec l'écrivain Guy Debord, qui aurait joué un rôle de gourou, d'éminence noire, auprès d'un Lebovici qui publiait ses écrits et le finançait, le producteur. Aurait-il trahi une quelconque cause au point de le payer de sa vie ? Question sans réponse, Guy Debord démentira les accusations dans les journaux à coup de procès en diffamation. Sept ans après l'assassinat et alors qu'aucun élément concret n'a surgi, qu'aucun témoignage digne de ce nom n'est apparu, le juge Verlaine referme le dossier. Les recherches n'iront pas plus loin, la justice prononce un non-lieu. Après la mort de son mari, Floriana Lebovici a mené le combat pour savoir ce qui s'était vraiment passé le 5 mars 1984 dans un sous-sol du parking Foch. Rongée par cette histoire, elle est morte 6 ans plus tard, le 19 février 1990, des suites d'un cancer. Celui qui s'était présenté comme le guide spirituel de Gérard Lebovici, Guy Debord, se suicidera 4 ans plus tard en se tirant un coup de carabine dans la bouche. Il avait publié quelques années auparavant un livre intitulé « Considérations sur l'assassinat de Gérard Lebovici », ouvrage qui n'éclaircit pas vraiment les contours de ce crime. Au fil des années, les proches et les possibles témoins ont ainsi disparu. Affaire à ce jour insoluble, trop de pistes, mais pas le moindre indice. Une victime tellement en vue que les policiers n'ont jamais pu exploiter la totalité de son carnet d'adresses et de ses notes. Qui plus est, jamais affaire n'aura suscité aussi peu de bavardage et de confidences de la part du milieu. Aucun nom n'émergera pour désigner le tueur de sang-froid du parking. 37 ans après, le dossier Lebovici apparaît ainsi comme l'un des plus célèbres cold cases français. Seul un improbable élément nouveau, un témoignage, un testament, pourrait relancer les investigations. Au cimetière, la tombe de Gérard Lebovici porte notamment ces mots. Quel ami pour ses amis, quel ennemi pour l'ennemi. Peu après l'assassinat, un policier avait indiqué au Nouvel Observateur « Que voulez-vous ? À force de vivre dans le secret, on meurt dans le noir. »